journal des sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, on revient sur ce rapport publié lundi par l'IPBES sur la chute et l'effondrement de la biodiversité dont nous avons beaucoup entendu parler tout au long de la semaine, Natacha.
L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est considérée comme le GIEC de la biodiversité. Alors ce rapport a pour objectif de mesurer l'impact de l'activité humaine sur la nature. 140 scientifiques du monde entier ont été mobilisés. Ils ont synthétisé les données et les analyses recensées par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En bref, c'est l'étude la plus exhaustive jamais réalisée. Le texte est ferme, l'ampleur de la destruction du vivant est plus grave qu'on ne pensait. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales recensées, environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Ce taux d'extinction est sans précédent et il s'accélère. Alors deux choses sortent de ce rapport très clairement. 40% d'espèces d'amphibiens sont menacées, ainsi que 33% des récifs coralliens. Alors les récifs coralliens sont les premiers écosystèmes qui risquent d'être fortement endommagés. Alors dans cette étude, les causes de cet effondrement ont été hiérarchisées et modélisées. Paul Lidley est directeur du laboratoire d'écologie de l'université Paris Sud. Il est le principal auteur de ce rapport.
On a regardé quels sont des facteurs qui pilotent des pertes de biodiversité et on a fait pour la première fois une comparaison de plusieurs modèles de l'impact de ces différentes voies de développement socio-économique sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Bon, il est expliqué surtout par l'augmentation de pression sur la biodiversité, donc l'augmentation de vitesse de changement d'utilisation de terre, la surexploitation comme les surpêches, par l'augmentation de pollution. Donc on a vu l'augmentation par exemple par la pollution de plastique et d'autres facteurs comme le changement climatique qui pour l'instant aussi augmente. J'ai travaillé sur le chapitre des scénarios en regardant le futur. Et l'un des constats, et c'est si on peut s'arrêter à une augmentation de la température mondiale autour de 2 degrés, les risques liés au changement climatique seul d'extinction est de l'ordre de 5%. Si on arrive à un petit peu plus de 4 degrés, qui est tout à fait possible si on ne respecte pas Paris, on est autour de 16% d'extinction due au changement climatique seul. Et on peut rajouter à ça tout ce qui est lié avec l'utilisation de terre ou la surexploitation des pêcheries.
Alors dans ce rapport, on peut aussi lire que pour préserver la nature, les actions gouvernementales bougent. Le nombre de surfaces protégées a augmenté par exemple, mais problème, ces réponses pour minimiser les dégâts ne sont pas suffisantes pour contrecarrer l'augmentation totale des pressions qui pèsent sur l'ensemble de la biodiversité. Le texte fait aussi un autre constat d'échec. En 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique d'Aichi au Japon, un plan stratégique a été adopté avec 20 objectifs pour 2020. Sur les 20, seulement 4 ont été respectés. Alors, contrairement au GIEC qui proposait des objectifs clairs pour ralentir le réchauffement climatique, comme ne pas dépasser les 2 degrés, le rapport de l'IPBES reste assez vague sur les solutions concrètes. Il évoque une réforme majeure de l'économie avec des contrôles très forts. Gilles Boeuf est biologiste et professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société. Pour lui, l'effondrement du vivant n'est pas inéluctable, mais pas sans un changement radical.
Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on vit ? Comment on voyage ? Comment on développe en permanence une culture de l'impact ? Si je fais ceci, ça va entraîner ceci. Ne faire aucun projet humain sans, a priori, se demander l'impact qu'il aura sur le vivant et la biodiversité. Arrêter d'assécher les mares, arrêter de couper les forêts tropicales, arrêter de surpêcher, arrêter d'empoisonner par une agriculture productiviste qui a tué les sols sur lesquels elle s'exerce. C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie profondément notre économie aujourd'hui. Chaque minute qui passe, elle est inquiétante. Et surtout, arrêtez de dire ce sont nos enfants qui vont faire quelque chose. Il sera trop tard si on passe encore une génération.
Alors justement, les indices s'accumulent depuis des années et pourtant, il n'y a pas de réponse des gouvernements.
Regardez même l'accord sur le climat qu'on a obtenu à Paris dans la douleur. C'était pas simple. Le 12 décembre 2015, 195 pays viennent et promettent de faire quelque chose. Plus de 180 aujourd'hui ont signé l'accord de Paris, mais il y en a 9 qui font le travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument à tous les niveaux qu'on se mette réellement à considérer ceci comme une priorité des priorités, pas quelque chose de secondaire. C'est pas une histoire d'écolo farfelu, hein. Le climat qui change et l'effondrement du vivant. Les gouvernements, ils bougeront quand les citoyens les pousseront à bouger, hein. Et pour ça, en fait, au niveau économique, pour moi, c'est clair, hein. Il faut absolument cesser cette économie actuelle, suicidaire et stupide, qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant.
Et puis, ben, pour poursuivre dans cette lignée, c'est aujourd'hui le jour du dépassement pour l'Europe, le jour donc qui indique que nous avons consommé la totalité des ressources que nous pouvons produire. Pour, en tout cas, l'Union européenne, Natacha.
Oui, aujourd'hui, ce vendredi 10 mai, l'Europe a déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables en un an. Alors, les ONG, hein, The WWF et The Global Footprint Network, ont fait un autre calcul. Si le monde entier vivait comme les Européens, il faudrait 2,8 planètes Terre pour survenir à ses besoins. Nous représentons 7% de la population mondiale et l'Europe use 20% de la production biologique globale. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on vit à crédit pour ces 8 prochains.
Le Parlement britannique a voté un texte qui proclame l'urgence écologique et climatique.
L'Angleterre devient le premier pays à déclarer l'urgence climatique comme urgence nationale. Alors c'est surtout une action symbolique car le texte n'a pas de conséquences directes sur la politique. Pour l'instant, pas de nouvelles mesures à l'ordre du jour.
Et le gouvernement néo-zélandais a lui présenté une série de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était mercredi dernier, objectif neutralité carbone en 2050.
Le projet de loi, qui n'est pas encore voté, planifie une réduction de 10% de la production de méthane d'ici 2024. Le texte prévoit également la création d'une commission sur le changement climatique pour élaborer tous les 5 ans des budgets d'émissions. Pour les Verts et pour Greenpeace, hein, ces objectifs sont impossibles à tenir car le secteur agricole n'est pas concerné par ces mesures et qu'il est responsable d'un tiers des émissions de CO2 du pays.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe américaine est parvenue à imprimer en 3D des réseaux vasculaires complexes. C'est une innovation à la une de la revue de Science ce mercredi.
Ces derniers mois, les technologies 3D dans le secteur médical font des progrès impressionnants. Il y a quelques semaines, on en parlait ici, une équipe israélienne a réussi à bio-imprimer un prototype de cœur humain à partir de cellules souches. Là, les chercheurs de l'Université de Washington ont recréé la complexité d'un réseau vasculaire. Alors, l'architecture vasculaire, c'est un défi technique. Les systèmes vasculaires varient de quelques centimètres de diamètre à quelques dizaines de microns. Donc le premier défi, c'est celui de la miniaturisation. Ils sont allés jusqu'à réaliser une alvéole pulmonaire avec deux micro-canaux indépendants qui s'enchevêtrent sans se pénétrer et qui peuvent communiquer entre eux. Ils ont rendu ce système perfusable et optimisé pour la transplantation, et ça, c'est une première. La méthode en question, c'est celle de la photopolymérisation. Un vidéoprojecteur projette des images de 2D en haute résolution sur une solution préhydrogel qui se solidifie au contact de la lumière. Jean-Christophe Friquin est directeur de recherche en bio-ingénierie tissulaire à l'INSERM. Pour lui, il ne s'agit pas de vaisseau vasculaire à proprement parler, mais on s'en approche.
C'est un mime de vaisseau, mais qui ne contient pas toutes les composantes biologiques des vaisseaux. Néanmoins, ce qui est extrêmement intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont pu perfuser leur réseau, leurs canaux, qui font entre 500 et microns et 1 mm de diamètre, donc ce qui est déjà une prouesse technologique, et surtout, ils ont pu faire communiquer les canaux entre eux. Par exemple, ils ont fait circuler des globules rouges dans un canal, et ils ont fait circuler de l'oxygène dans l'autre canal et ils ont pu mettre en évidence que les globules rouges étaient capables de capter l'oxygène qui circulait dans le canal contigu. Donc ça, c'est une avancée relativement intéressante en termes de modèle perfusable. Ben là, je pense qu'ils ont établi un système qui peut se substituer à des vaisseaux biologiques d'une certaine façon. Et puis le Graal, en fait, de la vascularisation, c'est vraiment ce système de vascularisation hiérarchisée avec des gros vaisseaux, des petits vaisseaux qui sont capables de recevoir des pressions tout à fait différentes pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments. Et ça, je crois que ça reste un grand, grand défi de l'ingénierie tissulaire du XXIe siècle.
En bref, la NASA va s'entraîner à dévier un astéroïde qui pourrait nous percuter en septembre 2022.
La NASA va viser avec des vaisseaux impacteurs l'astéroïde Didymos. Alors par contre, Didymos ne représente aucun danger, c'est vraiment un test. Et le but, c'est surtout de voir comment l'astéroïde va réagir à cet impact et surtout s'il est possible d'en modifier la trajectoire.
Selon un rapport sur les menaces informatiques, la France serait le quatrième pays d'où proviennent le plus de cyberattaques sur le trafic mondial.
Sur toutes les cyberattaques recensées en 2018, 5% des les adresses IP sont situées en France. Ça ne veut pas dire que les hackers sont sur le territoire. En revanche, ça signifie que le réseau Internet français est une plateforme technique de premier plan. La France se trouve derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Et selon ce rapport, la finance et les technologies sont les principales cibles des cyberattaques.
Et pour conclure ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature Human Behavior, et des neuroscientifiques ont montré qu'une zone précise du cerveau s'active chez les joueurs de Pokémon.
On l'appelle même la zone Pokémon du cerveau. Mmh. L'étude a réuni 11 personnes qui avaient joué à ce jeu de façon intensive pendant l'enfance et 11 non-initiés. Ils ont visionné une centaine d'images, des visages, des dessins animés, des animaux. L'activité cérébrale est similaire pour tous, sauf à la vue d'un Pokémon. Les IRM montrent que chez tous les anciens joueurs, une zone cérébrale s'actionne, le sillon temporo-occipital. Les auteurs de l'étude concluent que durant l'enfance, le jeu Pokémon a un impact sur l'organisation du cortex visuel.
Voilà, je viens de montrer une image de Pikachu à Sébastien Carassou, ses yeux s'illuminent. Donc vous êtes... Voilà,
Sébastien. On m'a ramené en enfance.